Oldies but Goldies avec Joe L. Arsenic et vieilles galettes, des vinyles sans une ride. Juste l'émotion à fleur de micro-sillon. Oldies but Goldies.
Oldies, Goldies, bonjour. Au menu Holder mais Golder, la machine à remonter le temps nous amène dans l'antre du must of the must, à savoir les inventeurs du hard rock et du heavy metal. Quand on pense hard rock, on met tout de suite une pièce sur AC/DC. Par contre, pour le heavy metal, Black Sabbath tiendrait le haut du pavé. Pour le must of the must, le top du top, il n'y en a qu'un, le dirigeable Led Zeppelin. Même si dans les premiers temps, les Deep Purple leur faisaient de la concurrence. La petite histoire, ou la grande, commence au début des années 60. Jimmy Page devient un des guitaristes de studio les plus prisés de Londres. Il commence à jouer au début de son adolescence et dès ses 14 ans, en 1957, il participe à une émission de télécrochet sur la BBC avec son groupe de skiffle où il explique qu'il veut devenir chercheur en biologie. Eh ben voyons. Quelques années plus tard, il participe aux enregistrements des tubes des Who, des Kings, de Van Morrison et de beaucoup d'autres, à tel point qu'il se montre par la suite incapable de faire le compte total des titres sur lesquels il a joué dans l'ombre. En 1966, Page rejoint les Yardbirds aux côtés de Jeff Beck. Il affine son projet et gagne encore en expérience en partant en tournée mondiale avec les Yardbirds, à l'issue de laquelle Jeff Beck quitte le groupe. Pour l'anecdote, en 1966, la poupée qui fait nom de Michel Polnareff est enregistrée avec Jimmy Page et John Paul Jones. On peut ajouter que Johnny Hallyday a fait appel au service de Jimmy Page. En 1968, lorsque les derniers membres des Yardbirds, où il avait remplacé Jeff Beck et Eric Clapton, quittent le groupe, le laissant seul aux commandes, une série de dates de concert reste encore à honorer. Dans ce but, Page, prêt à mettre en route son propre projet, accompagné du manager du groupe, Peter Gant, recherche rapidement des musiciens pour former un nouveau groupe. John Paul Jones, bassiste, claviériste et arrangeur lui aussi, très prisé dans les studios londoniens, apprend la nouvelle et contacte Page avec qui il a déjà travaillé lors de différentes sessions au studio. Page, connaissant le professionnalisme de John Paul Jones, accepte immédiatement. Comme chanteur, Jimmy Page songe en premier lieu à Steve Marriott, le chanteur des Small Faces, puis à Terry Reid. Ce dernier décline la proposition, mais suggère à Page de s'intéresser à un jeune chanteur de Stourbridge, Robert Plant, qu'il a vu sur scène avec son groupe Band of Joy, alors que ceci faisait l'ouverture de l'un de ses concerts. Jimmy Page va écouter Plant en concert et enthousiasmé. Il ne manque plus que le batteur. Or, Robert Plant en connaît un, surdoué, avec qui il s'est déjà produit, John Bonham, avec le Band of Joy en 67-68. Ce dernier refuse d'abord l'offre, s'étant plus ou moins engagé avec Joe Cocker pour occuper un poste stable au sein de son groupe. Mais sous la pression de Page et de Grant, qui le bombarde de télégrammes expédiés au pub, où il a ses habitudes, accepte finalement l'offre et le quatuor se forme sous le nom de New Yardbirds. La première répétition a lieu dans un local de Gerrard Street à Londres. Il s'essaye sur le classique du rock'n'roll Train Kept Rolling et découvre instantanément l'alchimie qui va les mener vers les sommets. Tout le monde a plus ou moins fait « ouh », se souvient Jimmy Page à propos de ses premières minutes passées à jouer ensemble. Les quatre hommes se retrouvent en studio pour l'enregistrement de l'album Three Weeks Hero, dont John Paul Jones doit réaliser les arrangements. De retour en Angleterre, les New Yardbirds changent leur nom pour celui de Led Zeppelin le 9 novembre 1968, lors d'un concert au London Roundhouse de Chalk Farm. Le terme lead balloon, ballon en plomb en français, est souvent utilisé pour décrire une idée mal conçue ou dont l'échec est à la fois prévisible et inévitable. Le nom surgit lorsque Jimmy Page se souvient d'une anecdote datant de 1966 et de l'enregistrement du single de Jeff Beck, Beck's Bolero. Le titre est mis en boîte avec John Paul Jones, musicien de studio comme Page à la basse, Nicky Hopkins au clavier et Keith Moon à la batterie. Ce dernier, qui n'a aucune intention de quitter les Who, lui explique que son projet va s'écraser au sol comme un zeppelin de plomb, soit Led Zeppelin. 2 ans plus tard, au moment où est choisi ce nom, le A de Lead est retiré, le manager Peter Grant revendiquant la paternité de cette modification pour une question de prononciation aux États-Unis. Lead ayant notamment une connotation négative qui veut dire chargé, drogué, défoncé. Le premier concert donné sous le nom de Led Zeppelin, donc sans le A, a lieu le 9 novembre 68, comme en témoigne l'affiche du concert à Schalke Farm. Allez, commençons par ce morceau qui envoie du bois, Wool Luta Love.
You've been ruling, baby, I've been ruling.
Wuluta Love. Armé d'un prestigieux contrat avec Atlantic Records, ils font une tournée des États-Unis en support à Vanilla Fudge avant de lancer leur premier album explosif, tout simplement nommé Led Zeppelin, au début de 1969. Il comprend des pièces originales très puissantes comme Good Times, Bad Times ou Communication Breakdown et Dazed and Confused, en plus de magnifiques reprises de Rhythm and Blues telles How Many More Times et You Shook Me. L'album sera certifié diamant pour 10 millions de copies vendues aux États-Unis en mars 2001. Avant même que l'année 69 se termine, le groupe lance son second album, Led Zeppelin 2, un album que plusieurs considèrent encore aujourd'hui comme un des plus grands de tous les temps. Moins enraciné dans le blues, mais laissant plus de place à la personnalité extravagante de Plant, Led Zeppelin 2 contribue à définir le style du groupe et à le détacher de ses racines. Avec Wuluta Love, justement, une version réécrite de You Need Love de Willie Dixon, l'album est lancé avec un classique en devenir, pendant que Living Loving Mad, Moby Dick, avec un solo de batterie nous montrant tout le talent de Bonham, Thank You et What Is and What Should Never Be contribuent à assurer la grande qualité de l'album. En 1970, Led Zeppelin 3 paraît avec des pièces très acoustiques comme That's the Way et Tangerine. Mais on y retrouve aussi des pièces plus rock selon leur propre tradition, comme Immigrant Song et Gallows Pole. En concert, c'est le look d'Adonis de Plant qui attire le plus l'attention, pendant que Page se démarque avec son doigté à la guitare, sur 6 ou 12 cordes d'ailleurs. La confirmation de leur grand talent apparaît sur leur quatrième album, Led Zeppelin 4, donc. Ils aiment bien les chiffres, nos amis Led Zeppelin. Aussi connu sous le titre de Four Symbols ou Runes Album ou Zoso. Il comprend le chef-d'œuvre Stairway to Heaven qui redéfinit le genre et constitue encore aujourd'hui une des pièces les plus jouées à la guitare par les novices. L'album inclut aussi plusieurs autres classiques tels Black Dog, The Battle of Evermore et Rock'n'Roll. Avec plus de 16 millions de copies vendues à ce jour aux États-Unis, Led Zeppelin 4 constitue incontestablement un des grands albums de l'histoire. Suite à cet immense succès, les attentes vis-à-vis de leur prochain album, Houses of the Holy, sont immenses. Par la variété de styles qu'on y retrouve, du folk, reggae et soul entre autres, et sa profondeur avec des pièces comme No Quarter, le groupe a su revenir avec un excellent album qui réussit à faire taire les critiques sans toutefois égaler la qualité du précédent. Mais il faut dire que cet album aura été considéré comme un chef-d'œuvre à n'importe quelle autre étape de leur carrière. Dans la tournée qui suit la parution de l'album, ils produisent un film en concert dont la bande originale allait paraître en 1976 sous le titre de The Song Remains the Same. Ils forment leur propre label de disques, Swan Song, qui signe entre autres Bad Company, Pretty Things et Maggie Bell. Le premier album de Led Zeppelin à paraître sur ce nouveau label est l'album double Physical Graffiti en 1975 qui comprend un ensemble de plusieurs styles. On peut y entendre du hard rock sur Custard Pie et Sick Again, du blues progressif sur In My Time of Dying et de l'expérimentation avec des violons sur le classique Cashmere. En août 1975, on prévoit une tournée mondiale mais elle doit être abandonnée à cause d'un grave accident de voiture subi par Plant et son épouse. Allez, seconde pause punchy avec Heartbreaker.
I won't take long.
Breaker. Pendant la période de convalescence de Plant, le groupe travaille à un nouveau disque, mais certains problèmes au montage causent un délai pour sa sortie. Les préventes aux États-Unis de Presence assurent à l'album sa certification platine, mais à sa sortie, la déception est très grande et les ventes au Royaume-Uni sont beaucoup plus faibles. À part la magnifique performance sur Achilles Last Stand et le succès de Nobody's Fault But Mine, on n'y retrouve rien de particulièrement notable. En 77, le groupe démarre une tournée américaine, mais le 26 juillet, Plant apprend le décès de Carac, son fils de 6 ans, d'une infection virale. Les dates restantes sont annulées et des rumeurs veulent que le groupe se sépare. Ils restent inactifs pour une bonne année, mais en 78, ils partent enregistrer leur nouvel album en Suède. Il en résulte In Through The Outdoor, un album sur lequel Jones se révèle être le facteur unificateur du groupe. L'album, très abouti techniquement avec une super ballade, All My Love, remonte la cote du groupe et sera un succès quelques années plus tard. Suite à la sortie de l'album et à une mini-tournée en Europe dépourvue de succès à cause principalement de l'invasion punk, ils partent à nouveau pour une tournée américaine, mais en septembre 1980, John Bonham est retrouvé mort suite à une longue beuverie. Le 4 décembre, Swansong annonce que le groupe se retire officiellement et définitivement. En 1982, on met sur le marché Coda, une collection de matériel d'archives jamais paru. Jones devient producteur. Plant amorce une carrière solo à succès, en plus d'effectuer une brève réunion avec Page en 1984 dans les Honey Drippers, et dans les années 90. Page, de son côté, participe à différents projets en solo, avec Jones, avec Jason Bonham, le fils de John, avec David Coverdale, ex Deep Purple et Whitesnake, avec Eric Clapton et Jeff Beck, avec Puff Daddy, et aussi avec les Black Crowes. En 1995, Led Zeppelin est élu au temple de la renommée du rock'n'roll. Les fans rêvent depuis longtemps d'une réunion du groupe, alors qu'on voit en Jason Bonham le remplaçant parfait pour son père. Quelques apparitions à gauche et à droite raviveront régulièrement la rumeur, mais sans plus. Cette réunion deviendra finalement officielle le temps d'un spectacle au London's Arena le 26 novembre 2007, un concert pour venir en aide au Ahmet Ertegun Education Fund. Ce spectacle coïncide avec la mise sur le marché d'une compilation double, Mother Ship, et la réédition de The Song Remains the Same en différents formats audio et vidéo. Les archives d'inédits étant conséquents, on peut s'attendre à quelques sorties. Allez, à suivre. Terminons donc pour aujourd'hui avec In the Evening sur l'album In Through the Outdoors. Salut les petits loups and loups, à la semaine prochaine, au revoir.
Oldies but Goldies.